Je vous rappelle que je vous avais parlé du livre d'Esdras et de la relation que Esdras avait avec son Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir le livre suivant, donc le livre de Néhémie, où il y a présenté une vision plus communautaire de la vie du croyant, mais pas uniquement. Et cette fois encore, je vais me concentrer sur les derniers chapitres. Et je vous encourage à lire les chapitres précédents si vous ne l'avez pas fait récemment. Donc, pour vous remettre dans le contexte, après la reconstruction de la muraille de Jérusalem et le peuple revenu et réinstallé, une grande célébration s'ensuit qui va durer plusieurs semaines. Nous allons voir ce que nous pouvons tirer de ce passage en tant que chrétiens. Alors cela commence au chapitre 8 du livre de Néhémie, et cette célébration commence par une lecture de la loi. Alors cela peut nous faire poser cette question: quelle place a la Bible dans notre vie? Ici, dans ce chapitre de Néhémie, elle est lue en public par Esdras, dont nous avons vu il y a 2 semaines qu'il passait du temps à l'étudier, à la mettre en pratique. Et maintenant, nous le voyons aussi l'enseigner. Alors, bien sûr, il est logique et il est important que ceux qui enseignent la parole de Dieu au peuple de Dieu la connaissent eux-mêmes. Et je suis moi-même conscient ce matin de ma responsabilité en vous apportant cette prédication. D'ailleurs, le livre de Jacques parle de ce sujet au chapitre 3 et au verset 1. Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors oui, c'est particulièrement vrai pour les enseignants, mais ça l'est aussi pour chaque chrétien. Nous devons lire la Bible, la méditer, l'étudier et surtout la mettre en pratique. Alors, dans ce chapitre 8 du livre de Néhémie, il y a une phrase qui me semble particulièrement importante par rapport à cette lecture publique de la loi, et elle se trouve à la fin du verset 3. Donc, Néhémie 8, à la fin du verset 3, nous lisons « Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi ». Alors pourquoi je dis que c'est important? Parce que souvent, nous lisons un peu distraitement la Bible, peut-être plus par devoir ou par routine que pour réellement savoir ce que le Seigneur veut nous dire à ce moment-là. Et pourtant, voici ce que nous dit 2 Timothée 3 au verset 16 et 17. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ici, nous voyons que le peuple est attentif à ce que lit Esdras, et Esdras les met dans les bonnes conditions pour entendre et comprendre ce qu'il lit. Par exemple, nous voyons qu'il est placé en hauteur pour que sa voix porte au loin. Il lit distinctement, à l'époque il n'y avait pas de micro. Et ses collègues lévites expliquent ce qu'il a lu pour que chacun puisse comprendre. À partir du verset 9, toujours dans Néhémie chapitre 8, après cette lecture publique, il est question de réjouissance. Alors ça peut sembler bête comme question, mais en tant que chrétiens, savons-nous nous réjouir ? Au verset 10, il est dit « La joie du Seigneur sera votre force ». Alors bien sûr, il est des moments où il est légitime de pleurer ou d'être triste. Mais parfois, nous avons l'impression que la joie est quelque chose qui n'est pas spirituel, alors qu'elle fait pourtant partie du fruit de l'Esprit, qui est décrit dans Galates 5, verset 22. Je vais vous relire le passage, qui est bien connu, je pense. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors si en tant que chrétiens, nous avons des raisons de nous réjouir, c'est parce que, comme l'a dit Satine tout à l'heure dans sa prière, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous à chaque instant et il nous comble de ses bienfaits. Le théologien dominicain allemand, Maître Eckhart, disait que si on remerciait Dieu pour toutes les joies qu'il nous donnait, il ne nous resterait plus de temps pour nous plaindre. Alors en bon français, j'aime bien me plaindre de tout ce qui ne me convient pas, par exemple de la pluie ce matin, mais je confesse que je ne passe probablement pas autant de temps à me réjouir de toutes les bonnes choses que Dieu me donne. Enfin, pour un chrétien, son principal sujet de réjouissance, c'est l'espérance éternelle qu'il a liée à la résurrection de son Seigneur. Maintenant, il est intéressant de voir dans ce passage de Néhémie comment se manifeste ce temps de réjouissance. Alors ça, c'est toujours dans le chapitre 8 au verset 10, Néhémie 8, 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ils se réjouissent en faisant un bon repas ensemble, mais aussi en manifestant de la solidarité envers ceux qui n'ont rien préparé. Quand nous sommes dans un moment de joie, est-ce que nous pensons aussi à ceux qui ont moins de raisons de se réjouir que nous? Alors bien sûr, ce n'est pas pour diminuer notre joie ou pour nous culpabiliser, mais au contraire, pour associer d'autres à la même joie. Et après tout, n'est-ce pas cela l'annonce de l'Évangile? Partager à d'autres la joie que nous avons de connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dans le psaume 96, nous avons ces deux idées, la joie de l'annonce du salut, enfin, l'annonce du salut et la joie. Psaume 96, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. C'est bien la mission à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Et à la suite de cela, qu'est-ce qui se passe suite à cette annonce du salut et du règne de l'Éternel? Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Alors pour revenir à Néhémie, toujours dans le même chapitre, au verset 13 à 18, le peuple célèbre la fête des tentes. Celle-ci avait été instituée dans le Lévitique, au chapitre 23 et au verset 39 à 43. Lévitique 23, verset 39 à 43, qui dit ceci, « Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, encore cette idée de joie, votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Là aussi, donc, il est question de réjouissance, tant dans le commandement du Lévitique que dans la fête célébrée du temps de Néhémie. Au début de cette prédication, je parlais de l'importance de la parole de Dieu, et donc pour les Israélites, de la loi de Moïse. Ici encore, nous voyons que c'est suite à la lecture de cette loi qu'ils décident de célébrer la fête des tentes. Pour nous, depuis la résurrection de Jésus, l'ascension et la Pentecôte, chaque jour devrait être pour nous un jour de fête. Mais particulièrement quand nous nous rassemblons, nous son peuple, chaque dimanche matin, comme ce matin, c'est dans la parole de Dieu qu'ils ont découvert comment le célébrer lors de leur rassemblement. Nous aussi, soyons à l'écoute de sa parole pour savoir comment vivre notre vie d'Église. Et ce matin, réjouissons-nous encore de tout ce qu'il fait pour nous. Alors cette scène presque parfaite pourrait presque nous faire oublier un élément important. Malgré la présence de Dieu et ses bénédictions, le mal est toujours présent dans ce monde, et il ne peut cohabiter avec la sainteté du Dieu que nous servons. C'est pour cela que dans ce livre de Néhémie, il y a aussi, pendant cette célébration, un temps de confession des péchés qui nous est décrit. Au chapitre 9, c'est dans le cadre d'un jeûne qu'a lieu cette confession. Si vous vous souvenez bien, le temps de festivité et de joie qui a précédé était aussi lié à la nourriture. Donc il y a des temps où nous sommes appelés à nous réjouir et d'autres à nous lamenter. Il y a des temps où nous avons de quoi profiter et des temps où nous devons nous priver. Alors peut-être que cette phrase « il y a des temps, il y a des temps » vous rappelle quelque chose. Et si nous prenons le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, nous lisons ceci. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Et donc, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Nous pouvons voir aussi dans Philippiens 4, au verset 12, Philippiens 4, 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, disait l'apôtre Paul. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Mais ici, le jeûne qui est décrit dans Néhémie est lié à la prière et à la repentance. Tout à l'heure, j'ai demandé si nous savions nous réjouir. Maintenant, je me demande si nous savons nous lamenter. Nous lamenter sur l'état de ce monde qui se perd sans Dieu. Nous lamenter surtout sur l'état de nos cœurs pécheurs. Le peuple confesse donc ses péchés et il s'en repent. Mais d'où est venue cette décision ? Si nous voyons de plus près le contenu de leur prière, c'est assez évident. Il rappelle la fidélité du Seigneur, tout ce qu'il a accompli pour son peuple dans le passé. Donc, nous pouvons voir ça. Donc, c'est dans Néhémie chapitre 9. Je vais vous lire quelques versets. Donc, à partir du milieu du verset 5. « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. » C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. » Et après, il rappelle toutes les merveilles de Dieu. C'est toi qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Tu as trouvé son cœur fidèle Devant toi, tu as fait alliance avec lui, tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte, tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, tu les as guidés le jour par une colonne de nuée. Nous voyons que le peuple qui fait cette prière a bien retenu l'écoute de la lecture de la loi, puisqu'il redit chacune des étapes par lesquelles est passé Israël dans le passé. Et à partir du verset 16, il ajoute « Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce, tu es rempli de compassion. » Lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Mais toi, dans ton immense compassion, verset 19, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient suivre. Alors après, il décrit encore des bénédictions qu'a vécu le peuple, du verset 20 au verset 25. Et au verset 26, de nouveau, « Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi, ils ont délibérément ignoré ta loi, ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. » Et au verset 32, « Maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante toute la souffrance que nous avons rencontrée, que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois syriens jusqu'à aujourd'hui. » Et au verset 36, « Et aujourd'hui, nous voici esclaves, le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ce qu'il produit en abondance est pour les rois que tu as placés au-dessus de nous à cause de nos péchés, et ils dominent selon leur bon plaisir sur notre corps et sur notre bétail. » Nous sommes dans une grande détresse. Ainsi, le peuple fait part de sa détresse et il reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Donc, je vous disais que tout ce souvenir qu'évoque le peuple dans sa prière vient de ce début de temps de célébration qui a commencé par la lecture de la loi et où, effectivement, le peuple a été attentif. Alors ce matin aussi, si nous sommes attentifs à ce que Dieu veut nous dire, peut-être que ça va nous appeler à demander pardon pour certains péchés. Nous aussi, nous entendons la lecture de la Bible. Nous la lisons même nous-mêmes. Nous nous réjouissons de ce que nous en avons compris. Mais est-ce que cela nous pousse aussi à nous repentir, à nous confier dans la fidélité de Dieu, ce Dieu qui n'a pas changé, qui est toujours le même? Et enfin, suite à cette longue prière, au chapitre 10, il y a un temps de reconsécration, d'engagement, d'obéissance. Dans Néhémie 10, au verset 28, nous lisons « Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence. Pour suivre la loi de Dieu, ils ont dû se séparer des peuples étrangers. » Alors une lecture un peu rapide de ce passage pourrait donner l'impression d'un Dieu raciste, mais nous savons que notre Dieu aime tous les hommes et tous les peuples. Ici, comme souvent dans la Bible, il s'agit surtout de se séparer du monde pour obéir à Dieu. Rappelons-nous que la Bible nous appelle saints et que dans le langage biblique, ce mot signifie « séparé », « mis à part ». Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si nous nous souvenons du livre d'Esdras, plusieurs hommes étaient allés vers des femmes étrangères, le genre d'alliance qui avait déjà entraîné Samson, Salomon et bien d'autres vers le péché, vers l'idolâtrie, vers le rejet de Dieu. Souvenez-vous des paroles de Jésus, « Nul ne peut servir de maître ». Si nous sommes trop attachés aux choses de ce monde, nous serons mathématiquement moins attachés à Dieu. Pour conclure, Que se passe-t-il quand nous lisons la Bible individuellement ou quand nous l'entendons dans l'Église ? Nous devrions être attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Nous devrions nous réjouir de ce que Dieu fait pour nous. Nous devrions en faire profiter d'autres. Nous devrions être poussés à nous repentir et nous engager de nouveau à obéir au Seigneur.